Ah, voilà. Voilà. Bienvenue à tous. Bienvenue pour cette deuxième soirée sur l'Apocalypse. Je vois en plus qu'il y a des nouveaux. Voilà. Vous avez bien fait de venir. Il y a des jeunes et tout. C'est chouette de vous voir tous. Merci à Pierre. On se réjouit d'entendre cette suite. Prenez place. Simplement peut-être un peu prier. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui se révèle à notre intelligence, à notre âme. Merci parce que tu ne te caches pas et tu nous conduis vers toi. Merci pour ces cieux élevés, ces endroits que tu veux nous révéler aussi davantage. Merci Père de bénir Pierre, de le renouveler, de le conduire ce soir. Amen.
Voilà, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver. Vous ayez le courage de revenir. Magnifique. Voilà, nous allons tout de suite nous plonger dans la suite de ce livre magnifique de l'Apocalypse. Je reprends au chapitre 4 un verset magnifique qui résume un peu tout ce que j'ai partagé la fois passée sur la bonne nouvelle de l'Apocalypse quand même, magnifique. Et il est dit au chapitre 4, verset 8, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Et je vous ai dit que nous trouverions, j'espère, déjà ce soir, ou peut-être pas, en 16:5, chapitre 16, verset 5, il est dit « qui était et qui est ». Il n'y a plus le « qui vient ». Donc, rassurez-vous, il vient. Donc, on va le trouver. Et ensuite, il est dit au verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Et comme je vous l'ai dit le premier soir, en fait, nous sommes dans l'Écriture de l'Éden à l'Éden, au jardin qui vient, et à ce fleuve d'eau vive qui coule du cœur de Dieu. Je vous ai redonné la feuille et on va le chanter à nouveau, ce chant du renouveau des années 70 qu'on chantait avec des milliers de personnes, protestants et catholiques. On croyait vraiment que l'unité de l'Église était arrivée. Et il y avait de grands rendez-vous, d'ailleurs certains s'en souviennent. On allait à la PO, n'est-ce pas, et on chantait ces chants de tout notre cœur. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Donc, nous sommes en route, comme je vous l'ai dit, entre cette création qui est rappelée ici, tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Est-ce que tout le monde me comprend bien? D'accord, parfait. Alors, on continue. Et nous voilà avec ce fameux livre au chapitre 5, un livre scellé de sept sceaux. Et on va arriver bientôt au chapitre 6, à ces fameux sceaux, et puis certainement aux trompettes et aux coupes. Mais d'abord, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et puis Jean, au verset 4, il pleure beaucoup parce que personne n'est trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les sept sceaux. Et je dirais que c'est extraordinaire parce que celui d'ailleurs qui a parlé, j'y reviendrai, de ce qui est dans l'Apocalypse, c'est Jésus en Matthieu 24 qui a eu le courage de dire quels étaient les fléaux qui allaient atteindre notre humanité, qui commençait d'ailleurs déjà au temps des apôtres, même dans l'Ancien Testament. Mais c'est celui qui a le droit, en fait, d'ouvrir ces révélations d'allure glorieuse, je vous l'ai dit, et on n'est pas au bout, mais aussi de, quand même, ces sons, ces trompettes et ces coups. Et puis le lion de Juda, vous voyez, il est dit juste après l'agneau qui est debout. C'est extraordinaire parce que on a l'habitude, bien sûr, de cet agneau qui a été sacrifié, qui s'est offert en sacrifice une fois pour toutes pour nous pardonner, pour qu'il n'y ait plus à devoir sacrifier des animaux. Or, on a l'habitude de voir cet agneau percé. Non, il est debout. Il est debout, mais en plus, c'est le lion de Juda. Et il y a dans Osée un texte assez étonnant qui nous dit que Dieu rugit aussi comme un lion. À part le Seigneur Jésus. Mais il est dit, la fois où il a rugi, il est dit, je ne viendrai pas avec colère, ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion. Je suis dans Osée 11 au verset 10. Car il rugira, et les fils accourront de la mer en tremblant, ils accourront de l'Égypte en tremblant comme un oiseau, et du pays de l'Assyrie comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison. Donc, en fait, on peut dire que dans le temps, dans l'histoire, Dieu a rugi à un moment donné pour rassembler son peuple, et ce sont des événements relativement récents. Et ce lion de Juda, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, le lion de Juda. Au point que quand j'aime beaucoup certaines expressions de l'Écriture, Souvent, il me les a fait vivre sur le terrain. Et une fois, je ne raconte pas en détail, mais j'étais au parc Kruger avec une vieille bagnole, un gars de, une espèce de taxi de la capitale. Et on n'a pas pu loger là où les gens étaient réunis pour voir ce fameux million de gnous qui traverse la rivière. Vous avez tous vu ça dans des télés. Mais un, il n'y avait plus de place. Puis deuxièmement, c'était impensable. 350... dollars la nuit, c'est impensable. Et donc, ils nous ont permis de mettre une petite tente en dehors des barrières fortifiées, électrifiées, en nous disant, faites attention, il y a des buffles et puis surtout des lions. Et le soir, effectivement, le lion mâle n'était pas très loin. Et moi, je n'ai pas dormi, non pas de peur, je voulais m'imprégner du cri du lion de Juda. Parce qu'on peut presque dire que la terre tremble. Et plusieurs fois dans l'Apocalypse, il est dit que la terre tremble. Et ce n'est pas seulement un tremblement de terre classique, ça peut arriver. Jésus l'a annoncé, il y aura des tremblements de terre. Mais quand le lion de Juda rugit, je peux vous dire que la terre va trembler. Et cela, c'est une bonne nouvelle de plus. Et puis il est dit au verset 8, quand il reçut le livre, les quatre êtres vivants, et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. J'aime beaucoup ces coupes qui sont remplies de nos prières. Vous voyez, parfois on est découragé, parfois on dit, mais on a l'impression que nos prières ne passent pas le plafond. Eh bien oui, elles passent le plafond. Et elles entrent dans ces coupes d'or. Je prends un exemple qui nous a beaucoup touchés dans notre famille. La sœur de Jeannette, qui est ici présente, ils ont, avec son mari, adopté une petite fille qui venait de Haïti. Elle est arrivée comme bébé, mais elle avait le sida. Et cette petite a vécu 10 ans, mais elle n'a pas pu toujours aller à l'école, mais elle a eu un rayonnement divin. Il y avait quelque chose de très particulier chez cette petite Oron. Et elle a beaucoup dessiné, beaucoup peint. Elle avait peint un mois avant son lit vide et elle était au-dessus de son lit, elle partait vers le Seigneur. Elle avait mis une date et ça a correspondu à la date de son décès. Mais quelques jours avant de mourir aux chuves, elle a demandé, elle souffrait beaucoup, à une infirmière de prier pour elle. Et l'infirmière a dit, mais je ne sais pas prier. Elle a dit, alors je prierai pour vous. Et cette infirmière s'est convertie par la suite. Et suite au décès de cette petite, il y a eu plusieurs conversions. Et pour moi, c'est comme si le Seigneur avait gardé dans ses coupes d'or toutes ses prières non exaucées à nos yeux, mais en fait qu'il redonne sur la terre en bénédiction. Et puis il a dit, tu es digne de recevoir le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est très bouleversant. Voyez, on parle beaucoup d'identité, n'est-ce pas ? L'identité des tribus, leur langue, leur nation, leur peuple. Dieu aime toutes ces personnes dans leur identité. Et vous savez, pour plusieurs, combien de fois j'étais chez mes amis pygmées au cœur de la forêt équatoriale, et je les vois déjà dans le ciel, n'est-ce pas, avec leur langue bayaka, magnifique. C'est le respect de Dieu pour la culture, pour qui nous sommes, pour notre coin où nous sommes nés. Il aime tout cela, et nous devons le protéger et le transmettre. Et puis tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Vous vous souvenez, j'ai parlé des prêtres et des prêtresses en Apocalypse 1. Eh bien ici, c'est bien rappelé, et des sacrificateurs, les prêtres et les prêtresses pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alors je reviendrai, mais voilà déjà un verset qui nous dit qu'il y aura un règne terrestre. Ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. On a déjà parlé de ce trône de Dieu où on ne comprend pas tout et de loin pas, mais tant mieux. Mais il y a quelque chose de très bouleversant. Il y a ces roues d'Ézéchiel, ces feux. C'est quelque chose qui fait que ceux qui ont approché comme Ézéchiel et comme Jean, ils essayent d'en parler, mais je dirais... Heureusement que ce n'est pas trop précis parce qu'on ne le croirait pas. Vous voyez, au Moyen-Âge, les peintres, ils ont mis Dieu avec une barbe sur un trône en pierre. Eh bien, si on avait décrit comme ça le royaume des cieux, on n'y croirait pas. Par contre, en laissant ce mystère qui est là, mais en même temps, cette réalité. Et il ne faut pas, au nom d'une image ou d'un symbole, éliminer la réalité. Ça, c'est une erreur que nous ne devons pas commettre. Et toutes les créatures, et ils crient, ils chantent des cantiques à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et puis, nous voilà à ces premiers sceaux, les premiers sceaux. Alors, je dirais, d'une part, c'est que avant, comme on l'a déjà vu, il y a le peuple de Dieu, il y a la gloire éternelle, il y a cette assurance qu'au travers des épreuves qui sont là, eh bien, le Seigneur veille, mais il prend soin de son peuple. Or, il y a ce premier sceau qui est le cheval blanc, au verset 1. Et malheureusement, certains croient que ce cheval blanc, c'est Jésus, mais il n'a rien à faire avec ses cavaliers, rien à faire. D'ailleurs, il est dit que ce cheval blanc a une couronne, mais cette couronne, c'est la couronne Stéphanos. Ça veut dire que c'est la couronne des Grecs aux Jeux Olympiques. quand le Seigneur reviendra lui aussi sur un cheval blanc, et je vous en parlerai, il a un diadème, il a un manteau trempé de sang, en Apocalypse 19, et sur sa cuisse c'est écrit « Roi des rois ». Donc, il n'y a pas de confusion possible. Par contre, Jésus l'a annoncé, plusieurs viendront en mon nom. Et c'est sûr que des faux prophètes, des faux Christ ont existé au travers de tous les temps. Et celui qui le monte tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et puis le second, ce fameux cheval rouge, ôte la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Puis vient ce cavalier, le troisième, où il est dit au verset 6, « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. » Et puis il y a le quatrième cheval d'une couleur verdâtre, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre, et j'ajoute, y compris les virus. Chers amis, nous sommes dedans depuis des siècles. Et ça serait une erreur de dire que tout cela n'est que à venir. C'est une description de ce qui se passait déjà au temps des apôtres, mais qui s'est amplifié au long des siècles, au long des années. Et comme je l'ai dit la fois passée, nous sommes responsables, l'humanité est responsable de ces malheurs. Aujourd'hui, on entend tous les jours cela. Et Ruth a parlé de cette quatrième page de couverture du journal Réformé où un aigle dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Saint-Jean ?» Et il répond « C'est toujours pareil. Quand je regarde trop BFM TV, je me mets à écrire l'Apocalypse. » Oui, mais j'ai envie de dire « Je me mets à écrire la réalité et j'ai des bonnes nouvelles à vous donner. » Vous voyez, c'est ça, au fond, l'Apocalypse. Oui, il y a une réalité terrifiante. Terrifiante, ces cavaliers, mais nous sommes en grande partie dedans, vous le savez. Et Jésus, en Matthieu, quand il sera question des trompettes, je montrerai les correspondances entre les sons et les trompettes. Les trompettes, c'est de nouveau les hommes qui créent cela, mais d'une manière tellement méchante que les coupes, cette fois, c'est Dieu qui entrera en jugement. Et les coupes, c'est le parallèle avec les plaies d'Égypte. Je vous montrerai cela. Maintenant, qui a parlé de ces choses d'abord? C'est Jésus. Ce n'est pas que dans l'Apocalypse. Jésus, en Matthieu 24, parle de guerre, de bruit de guerre, de séduction, de famine et de tremblement de terre. Ce n'est pas nouveau. Simplement, on peut dire que Jean systématise un peu et il met des cavaliers parce que, à l'époque de Jean, les guerres se menaient effectivement avec des cavaliers et des chars. Et on peut dire, voilà, acceptons, c'est une image, un symbole, mais hélas, vous le savez, c'est tristement une réalité. Maintenant, ce n'est pas que Jésus et que l'apôtre Jean qui annoncent toutes ces choses. J'ai ici un livre, j'ai donné ma première conférence en 1973 ou 1974, quand j'ai lu le livre du Club de Rome, Halte à la croissance. Et ça veut dire qu'en 1972, le Club de Rome disait, par rapport à la Terre, disait, attention docteur, c'est grave. Et puis, Hubert Reeves, lui, en 2003, il écrit ce livre « Mal de terre ». Alors, ils prennent tous, un peu tous les éléments qu'on connaît, n'est-ce pas ? Les guerres, les famines, la pollution, la criminalité, toutes ces choses. Évidemment, le changement atmosphérique. Et on peut dire Hubert Reeves, en 2003, il dit « La Terre aux soins intensifs ». Et puis arrive en 2006 Yves Pacalet. Yves Pacalet a été le bras droit du commandant Cousteau. Vous vous souvenez des fameuses émissions du commandant Cousteau. Et Yves Pacalet a été à la fois un grand scientifique qui a parcouru terre et mer pendant toute sa vie, mais aussi un philosophe. Or, il a écrit un livre, « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». Parce que sa thèse, il ne croit pas un instant en Dieu, mais il dit « L'humanité, d'abord il dit, si Dieu existait, il a créé un être qui détruit tout, donc c'est, il aurait mieux fait de rien faire. » Mais pour lui, Dieu n'existait pas. Par contre, il est convaincu que l'humanité va disparaître par sa faute et laisser enfin la place aux rats, laisser la place à toutes sortes d'autres animaux qui pourront enfin progresser sans l'être humain. Mais il dit l'humanité disparaîtra et il annonçait en 2006 pour 2025. Donc, bon, on parle au bout de 2025, mais ça fait quand même réfléchir. Et surtout qu'en tant que scientifique, il dit des choses, je dirais, qui sont d'une réalité aujourd'hui quand même assez inquiétante à certains égards. Et puis, le dernier livre, alors cette fois c'est en 2024, c'est le professeur Didier Raoul. Alors, lui, il dit effectivement l'humanité va disparaître parce que sa thèse, il est évolutionniste, je ne sais pas, vous le savez, mais c'est de dire c'est pas du tout le hasard des mutations génétiques triées par la sélection naturelle, pas du tout. C'est les bactéries qui évoluent, c'est les bactéries, c'est les virus qui changent constamment et qui ont créé au long des milliards d'années des nouvelles espèces. Et il est convaincu que ces virus et ces bactéries vont éliminer l'humanité pour qu'enfin ils puissent régner avec d'autres animaux. C'est pas très réjouissant, mais qu'est-ce que ça montre ? Ça montre une chose, je l'ai dit la fois passée, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à part les chrétiens qui croient à la parole de Dieu, qui croient à un avenir glorieux avec le royaume des cieux, ceux qui ne croient en rien du tout, c'est très nouveau qu'ils commencent de parler de la fin de l'humanité. Parce que le progrès a régné depuis le siècle des Lumières, avec la technologie, vraiment le modernisme qui a triomphé, le postmoderniste qui bat de l'aile, et maintenant nous sommes dans le wokisme. Mais ça veut dire qu'il y a comme une dépression générale. On se rend compte que la technologie n'arrive pas au bout. On peut aller sur Mars, sur la Lune, très bien, mais pour quelque part résoudre les problèmes de l'humanité, on commence d'en douter sérieusement. Et puis arrive ce cinquième saut au verset 9 du chapitre 6, et là il est question de ceux qui ont été égorgés, martyrisés à cause de leur témoignage. Et ils crièrent au verset 10 d'une voix forte en disant « Jusque à quand ?» Et on peut entendre la prière de ceux qui souffrent, bien sûr, chez nous aussi, de grandes souffrances, parfois dans la maladie, et combien, avec toutes sortes d'épreuves, peuvent dire jusque à quand. Et nous sommes encouragés à poser ces questions, puisque Jésus a dit en Matthieu 27, verset 46, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous avons le droit de demander pourquoi au Seigneur. Nous n'avons pas forcément de réponse, mais nous pouvons le dire. Et en plaisantant un petit peu, mais il est dit que Jésus vit en nous ce que je crois. Il nous fait l'honneur d'être sa maison, son temple. Et parfois, quand j'avais trop mal au dos, ou ça m'arrive de dire « ça ne fait rien, Seigneur, d'avoir mal au dos », mais comprenez dans quel sens je le dis avec beaucoup d'amour et de respect. Mais voilà, et je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien être secourus. Maintenant, il est dit, je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Et puis il est dit au verset 14, le ciel se retira tel un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent écartées. Il y a en fait dans l'Apocalypse plusieurs fins, mais en même temps il y a une progression vers ce royaume qui vient. Donc il y a comme des tableaux successifs où là on pourrait dire, bon, ben, alors c'est fini. Et il est dit au verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous. Alors, ils viennent de sortir un truc assez incroyable, évidemment, aux États-Unis, où pour 20 millions, vous pouvez aller vivre sous terre en étant en autonomie absolue. Alors, ça coûte 20 millions par personne, il y a 126 places. Donc, vous pouvez vous presser. Piscine, tout ce que vous voulez. Et en plus, tout est prévu avec l'intelligence artificielle et des robots, donc ils peuvent se soigner en interne. Et il y a même des IRM, vous voyez. Donc c'est extraordinaire. Voilà que ces personnes, et il est clairement dit que c'est pour survivre à l'Apocalypse, c'est dit ouvertement. Vous voyez, il y a des gens qui croient vraiment à l'Apocalypse. Et donc, ils oublient une chose. Il faudrait mettre sur la porte d'entrée, ou surtout sur la possibilité de réserver une place à 20 millions, Jérémie 23, 29, il est dit, je vais vous lire cela, parce que ça vaut la peine, Jérémie 3, 29, on va y arriver. Voilà. Et il est dit au Jérémie 3, 29, et là, voilà, Jérémie, je suis, ça vaut la peine, il faudrait mettre cela pour ceux qui sont tentés de réserver une place. Il est dit, c'est 23, pardon, c'est 23, voilà. On y arrive. 23, 29, j'y suis. Voilà. Il est dit, oracle de l'Éternel, ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, et comme un marteau qui fait éclater le roc. Vous voyez, il faudrait mettre ça sur leur truc, parce qu'ils mettent ça dans des rochers très profonds. Donc, ils peuvent fuir l'Éternel, fuir l'Apocalypse, mais à un moment donné, ils ne résisteront pas. Mais ça montre quand même qu'il y a des personnes qui connaissent l'Apocalypse et qui veulent fuir. C'est triste, en fait, puisqu'il est dit qu'ils disent aux rochers, tombez sur nous, au lieu de se tourner vers le Seigneur. Et puis, au chapitre 7, voyez, avant qu'arrive l'ouverture du septième sceau, voilà de nouveau cette grande consolation dans l'Apocalypse. Il est dit, il est parlé du peuple de Dieu. Après cela, je vis des anges debout au coin de la terre, et puis il voit ces anges, mais surtout, au verset 3, il est dit, ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est quelque chose de très bouleversant. Et ce sceau, on le retrouve déjà dans l'Ancien Testament, c'est le fameux Tav, la lettre hébraïque Tav, qui est comme un T, qui a donné naissance d'ailleurs à toutes sortes de croix diverses au travers des siècles de différentes sociétés. Donc, voyez cette bonne nouvelle, ça veut dire que les croyants sont marqués du sceau de Dieu. Et j'y reviendrai évidemment parce que quand il y a certains fléaux, ceux qui ont le sceau de Dieu ne sont pas touchés. Et vous voyez, on a toujours l'impression que non, il y a des temps de jugement de Dieu, comme pour le peuple de l'Égypte qui a été jugé, mais le peuple d'Israël a été écarté de ce jugement. Et donc, je poursuis. Il est question des 144 000. Évidemment, il a été question longtemps des témoins de Jéhovah. Maintenant, ils sont, eux, déjà plus que 144 000, mais ils peuvent dire que c'est peut-être les plus purs ou les premiers, peu importe. Ce qui compte pour moi, on l'a dit, ça correspond à 12 fois 12 000, c'est-à-dire des tribus, c'est... pourquoi pas. Mais moi, je n'ai jamais passé mon temps à essayer de démêler ces questions-là. On verra bien un jour quand on y sera. Par contre, il est dit immédiatement après, au verset 9, « Après cela, je regardais, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. » Donc, ils sont beaucoup plus que 144 000. Et on retrouve de nouveau cette attention pour les tribus, les peuples, les langues, les nations. C'est quelque chose quand même de très bouleversant. Et je vous ai parlé de ces nations, j'y reviendrai en parlant encore des anges puissants. Et puis, il a dit plus loin, qui sont ceux-là? Un des anciens dit, mais c'est qui ceux qui sont vêtus d'une robe blanche? Qui sont-ils et d'où sont-ils? Il me répondit, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Vous voyez qu'il y a des tableaux différents, parce que la grande tribulation, elle est à venir au chapitre 13. Mais c'est comme si le Seigneur nous encourage en disant, mais de toute façon, je vous l'ai dit, il y a des chrétiens dans le monde, on parle de 380 millions de chrétiens persécutés qui sont déjà en Apocalypse 13 et qui sont martyrisés et qui, arrivés près du trône de Dieu, reçoivent ces robes blanches. Et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit. Et puis il a dit ensuite, au verset 16, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. On vient de chanter ce beau cantique. Vous voyez, cette grâce qui est là, cette consolation qui habite, je le sais, pour les avoir entendus parfois, c'est... ces églises persécutées en Chine, en Moldavie, en Ukraine et dans d'autres endroits. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et puis arrive ce fameux septième sceau au chapitre 8. Et en fait, le septième sceau, c'est le début des trompettes. C'est toujours comme ça. Et puis, la septième trompette, ça sera le début des coupes. Donc, nous voilà maintenant au début des... première trompette. Et il est dit, voilà, un autre ange vint se placer sur l'autel. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums. Vous voyez, j'ai fait allusion à ces prières qui sont recueillies comme un parfum pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et au verset 5, un peu étonnant, l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et à nouveau un grand tremblement de terre. Et les sept anges qui tenaient les sept trompettes se préparaient à en sonner. Or, le jugement de Dieu est plusieurs fois dans l'Ancien Testament envoyé par ses propres anges. C'est une réalité, ça veut dire que Dieu est entré en jugement. Alors, il y a aussi la permission de Dieu avec Job, vous vous souvenez, c'est-à-dire où Satan lui dit, as-tu remarqué, ce serviteur magnifique, et il dit, mais tu sais, si je touche à sa santé, tu verras, il va te renier. Et il y a comme un colloque dans les cieux, ce n'est pas le seul. Il y a aussi dans Zacharie 3, où le souverain sacrificateur est dans la présence de l'ange de l'Éternel, et Satan est là pour l'accuser. Et l'ange de l'Éternel dit « Arrière de moi, Satan !» Mais après, il va prendre soin de ce souverain sacrificateur en Zacharie 3 en disant il faut nettoyer ton bonnet, parce que des fois dans nos têtes ça se passe pas très bien, et puis nettoyer tes vêtements. Donc, mais il est seul, l'ange de l'Éternel est seul avec le souverain sacrificateur. Mais il faut reconnaître, et d'ailleurs, j'ai envie de dire, le jugement, c'est mieux quelque part que ce soit Dieu qui l'exerce. Parce qu'il est dit qu'il est juste. Il est dit, alors que, on le sait, les troupes de l'ennemi sont tout sauf justes. Et d'ailleurs, il y a ce passage douloureux, nous sommes dans l'Ancien Testament, où le roi Saül, qui a eu une deuxième grâce dans sa vie, puisqu'il a désobéi dans un premier temps, et Dieu lui permet quand même d'aller combattre un peuple. Et quand il revient, il n'a pas obéi aux ordres de l'Éternel, et il a pris avec lui un roi qu'il aurait dû sacrifier. Nous sommes dans l'Ancien Testament, la seule raison de ce qui se passe au temps des rois, c'est que Dieu voulait un peuple messianique. On ne s'en sort pas autrement. Dieu voulait un peuple messianique et ça a à peu près marché au temps de David et au début de Salomon. Puisque, je vous l'ai dit, la pharaon Hatshepsut est venue voir Salomon. Qu'est-ce qui se passe ici? C'était vraiment un peuple qui attirait les personnes et les rois et les nations vers ce Dieu d'Israël, ce Dieu créateur. Et pour cela, Dieu a voulu purifier le terrain et purifier son peuple. Nous le savons, hélas, c'est un échec. C'est pourquoi Jésus est venu résoudre ce terrible problème sur la croix. Et donc, le prophète Samuel, il dit « Amène-moi ce roi ». Il prend une épée et lui coupe la tête. C'est écrit dans la parole de Dieu. D'ailleurs, j'ai vu une fois un film à la télé, il y a beaucoup d'années, sur le roi Saül. Je n'ai jamais revu ça, j'avais enregistré sur une VHS. Et on voit effectivement le début du film où Saül coupe la tête du roi Agag qui roule par terre. Ce n'était pas très drôle. Mais le jugement de Dieu est une réalité. C'est pourquoi, en Christ, nous sommes déjà jugés. Nous ne venons plus en jugement. Mais ce Dieu parfait est aussi un Dieu de jugement. Jésus l'a dit, le seul qui a parlé de l'enfer, c'est Jésus. Ce n'est pas encore une fois les peintres du Moyen-Âge. Et pourquoi a-t-il osé en parler de la séparation avec Dieu? Parce qu'il venait nous sauver, parce qu'il venait offrir sa vie pour nous sauver. Donc il était en droit, je dirais, de dire, mais sauvez-vous, venez à moi, et vous serez avec moi dans le royaume des cieux. Et donc, on continue avec les six premières trompettes. Alors, je ne vais pas prendre tout le détail, mais la terre est frappée, la mer est frappée, les sources d'eau et les rivières sont frappées, et puis ensuite, c'est la question de l'univers. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes dans des temps où la mer n'est pas en très bon état, où les sources d'eau ne sont pas en très bon état, où la terre non plus, on ne cesse de nous le dire. Donc, je dirais, il n'y a rien de nouveau quelque part, sauf que c'est écrit comme un jugement qui ne vient non pas, encore une fois, de la part de Dieu, mais c'est les hommes qui se jugent eux-mêmes. C'est une réalité. Nous sommes responsables des famines, nous sommes responsables de la pollution, nous sommes responsables des guerres, nous sommes responsables de ces crimes. Tous les jours en France, il y a maintenant un adolescent, une adolescente qui est poignardée tous les jours. Nous sommes responsables depuis mai 68, où il a été interdit d'interdire. Et vous le savez très bien. D'ailleurs, les politiciens crient maintenant en disant « Mais il faut rattraper la situation, mais peut-être que c'est trop tard. » Et donc, ce n'est pas l'Apocalypse qui invente ces choses, ce sont, hélas, des réalités. Et puis, au chapitre 9, Il est question de ce cinquième ange, et j'y reviendrai. Les clés du puits de l'abîme sont données, et le puits de l'abîme est ouvert. Et en fait, je me suis demandé parfois, en ayant beaucoup étudié le Nouvel Âge, si le temps du Nouvel Âge qui a été universel, on n'en parle plus aujourd'hui, mais j'ai entendu il n'y a pas si longtemps un professeur d'université à Lausanne qui, dans ses cours, parle clairement du Nouvel Âge, parce qu'il est établi sur la Terre, c'est-à-dire la religion du supermarché. Chacun fait sa propre religion. Or, dans ce temps des années 90, avec Marilyn Ferguson pour un nouveau paradigme, le Nouvel Âge, eh bien, tout a été révélé. Vous voyez, avant, il y avait les grimoires qui étaient dans des fermes. Il y avait le petit Albert, le grand Albert, il y avait toutes sortes de livres de magie, mais en fait, qui se passaient secrètement de famille en famille ou de personne en personne. Or, depuis ce temps-là, vous pouvez aller dans n'importe quelle grande librairie, vous trouverez les leçons de magie blanche, de magie noire, en 12 leçons, le petit Albert, le grand Albert. En fait, tout est répandu comme si le puits de l'abîme avait été. Et le nombre de personnes qui trafiquent avec les sciences occultes, c'est inimaginable. Bien sûr, on n'en a pas trop conscience quand on est dans ce magnifique terrain de l'Église. Mais dès que vous quittez ce terrain, et parfois aussi au sein de l'Église, mais dès que vous quittez ce terrain, vous êtes face à des personnes qui, sans problème, consultent les voyants, parlent avec les morts, trafiquent de toutes sortes de choses pour résoudre aussi toutes sortes de problèmes. Et donc, ensuite, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'il est dit au verset 4, il leur fut dit de ne pas toucher à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu. Voyez, on retrouve ce sceau de Dieu. Seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter. Et je peux vous dire que ceux qui touchent à l'occultisme sont tourmentés. Et ils ne le disent pas forcément, mais ils souffrent. J'ai rencontré plusieurs de ces personnes, je pense à un ancien peintre de Saint-Blaise, qui était si connu que des gens venaient de l'étranger, parce qu'il arrivait à rechercher des objets ou des personnes disparues. Et j'ai visité cet homme qui avait une très grande, comme une robe de chambre rouge, avec un dragon dessiné derrière, et j'ai rarement été dans un lieu avec autant d'oppression. Et cet homme m'a dit, je le connaissais très bien, il m'a dit, je suis obligé de travailler. Et j'ai souvent vu que les occultistes sont obligés, ils sont comme pris comme des esclaves de Satan, et ils doivent exercer pour être en forme. Et lui m'a dit, si je vais à la coopérative, j'ai de la peine à porter mon sac de commission, mais quand je travaille, deux hommes peuvent se pendre sur mon bras tendu. J'ai entendu cela à Saint-Blaise. Et une fois de plus, la preuve que ceux qui sont pris dans ces eaux-là souffrent. Et ici, il est dit, et on le voit, n'ayez pas peur de l'occultisme. Il est dit dans Deutéronome que l'occultisme ne peut rien contre la maison de Jacob. Je le crois profondément. Nous sommes à l'abri de ceux qui veulent nous jeter des sorts, de ceux qui veulent trafiquer contre nous. J'ai vécu des expériences assez terrifiantes en Afrique où des sorciers ont envoyé des puissances contre moi. Je ne pouvais même pas me lever et pendant plus d'une heure, je ne pouvais que dire « Jésus, Jésus, Jésus ». Je savais que si je me levais, j'allais périr. Ces démons étaient autour de moi, mais ils n'ont pas pu me toucher. Et ça, je le crois profondément. Alors, nous allons continuer. Il y a le sixième ange au chapitre 9, verset 13. Il faut que je regarde une fois ma montre. Ça va pas mal. Et donc, il est question de ces anges, quatre anges qui sont sur le fleuve de l'Euphrate. Je ne vais pas plus loin, parce qu'encore une fois, je n'aime pas essayer d'interpréter pour interpréter. Mais il est vrai quand même que l'Irak, l'Iran, dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, joue quand même un rôle majeur. Et aujourd'hui, on peut dire quand même qu'il y a une volonté de destruction d'Israël qui est quand même déterminée en Iran et dans ceux qui suivent leur doctrine. Je ne vais pas plus loin, simplement je constate qu'il y a des anges qui se tiennent prêts pour faire du mal à la terre et qui sont là sur ce fleuve de l'Euphrate. Et puis au verset 20, c'est très triste, au chapitre 9, il y a dit « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur inconduite, ni de leur vol. » C'est extrêmement triste. En même temps, c'est une réalité que nous côtoyons, où nos voisins, ceux pour qui on prie, ont tant de peine, je dirais, à croire au Seigneur et ne veulent rien du tout, mais ne nous lassons pas de prier, chers amis. Ne nous lassons pas de prier. Je vous ai parlé de ces coupes d'or qui recueillent nos prières. J'ai pris l'habitude de ce que j'appelle la prière ou l'encours. C'est-à-dire, voyez, des fois on prie pour une situation et on abandonne après quelques semaines. On ne peut pas prier pour tout le monde au long cours, mais j'ai des expériences précises. J'en prends deux. Mon petit-fils, enfin mes petits-fils, nos filles qui habitent à Paris, quand il était dans l'école enfantine, Vincent a maintenant 15 ans, il avait un petit ami, Paul, qui avait une leucémie. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai prié pour lui pendant des années. Et tous les 6 mois ou une année, je demandais des nouvelles, ça allait bien, ça allait mieux, et finalement il est guéri. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai prié fidèlement. Quand je dis tous les jours, c'est en moyenne 5 sur 7 pour le petit Paul. La même chose pour une petite Chirine, qui était la fille d'une amie de notre belle-fille à la Chaux-de-Fonds, atteinte d'un problème assez grave à la naissance, d'une, je ne sais pas si c'était physique ou... Peu importe, j'ai prié pour la petite Chirine aussi pendant des années, et puis de temps en temps, j'avais des nouvelles, et elle va très bien maintenant. Et alors, je n'ai pas que des succès, mais je pense aussi à un cher ami des Ponts de Martel. La dernière fois que je l'ai vu, il y a une année et demie, il arrive avec 2 cannes, il ne pouvait plus en avant, une sorte de cancer, les os qui cassaient partout. Ça m'a effrayé. Et je le voyais une fois par année au Pont de Martel et dans un groupe où je vais coacher des petits groupes de prière depuis 25 ans. Et là, je n'osais même pas prendre des nouvelles. Puis j'ai pris mon courage à deux mains l'automne passé. Je téléphone une première fois sans réponse. Et puis j'ai mis un mot sur le répondeur. Je me demandais comment on n'a plus le journal, même s'il n'était pas décédé. Et puis, il me téléphone un matin, il me dit « Mais je vais très bien, je suis guéri. » Alors, je ne suis pas le seul à avoir prié, vous comprenez. Beaucoup ont prié, et puis, vous le savez, hélas, tous ne sont pas guéris. C'est pour moi une grande souffrance, je dois dire. Mais, si le Seigneur vous met à cœur une situation, eh bien, priez au long cours. Et vous verrez que vous serez encouragés. Alors, je reviens dans notre texte, je suis cette fois enfin au chapitre 10 qui correspond à cette merveilleuse image, n'est-ce pas, où on voit l'ange qui donne le rouleau à l'apôtre Jean. Alors, vous la voyez ? Elle est magnifique, n'est-ce pas ? Et Béatrice m'avait, l'automne passé, dit « pour la publicité, tu pourrais m'envoyer une image avec des cavaliers. Et puis l'Apocalypse. Moi, je me suis dit, mais il y a déjà tellement de mauvaises nouvelles, qu'est-ce qu'on va encore mettre un cavalier de l'Apocalypse ? Alors j'ai pensé qu'on pourrait mettre effectivement la peau de Jean qui reçoit ce rouleau. Et d'ailleurs, un des vitraux à Saint-Blaise, dans le chœur, nous montre la peau de Jean qui reçoit ce rouleau. Et moi, tant de fois en attendant de prêcher, en particulier dans les services funèbres, je regardais, je m'inspirais de ce vitrail. Or, j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé une assez belle image, mais il fallait des droits d'auteur. Alors, tant qu'à faire, j'ai demandé à ChatGPT, l'intelligence artificielle. Et elle m'a pondu cette image magnifique, sans droits d'auteur. Je vous reparlerai de l'intelligence artificielle quand on sera dans Apocalypse 13. Mais reconnaissez que c'est magnifique. Des couleurs exceptionnelles. Ben voilà, ça nous simplifie un peu la vie. Hein.
Pierre, il y a quelqu'un qui veut
dire. Oui.
J'ai envie de réagir à ça, mais n'aurait-il pas été plus indiqué de demander à des graphistes au sein de la paroisse, pour qui ils sont des jeunes, qui ont des études là-dedans, de créer des images pour le but de cette conférence.
Oui.
Je vois l'intérêt, c'est rigolo, les images d'IA, mais
oui.
Connaissant qu'on a des talents chacun pour mettre un peu plus du champ.
Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'avais pensé un peu à Jacques Février. Vous savez que Jacques Février a peint un cavalier de l'Apocalypse sur l'église catholique du Landron. Et lui aurait su me faire quelque chose. Seulement, voilà, on est dans un temps où, malgré ma retraite, j'ai beaucoup à faire, tout le monde est pressé, tout le monde... Mais, effectivement, s'il y avait eu la connaissance de quelqu'un qui pouvait dessiner, ça aurait été très bien. Voilà. Mais, en attendant, je vous reparlerai de l'intelligence artificielle quand on sera au chapitre 13. Maintenant, il reçoit ce rouleau et il a de nouveau la voix forte du lion au chapitre 10 verset 3 et puis la voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces termes: va, prends le petit livre ouvert de la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et la terre. On va retrouver la mer et la terre en Apocalypse 13, où finalement la mer très clairement représente l'aspect politique de l'Antichrist et la mer c'est l'aspect politique et la terre c'est l'aspect spirituel. Mais on voit déjà là que celui qui règne en fait sur ce monde politique et sur ce monde d'une fausse spiritualité, c'est quand même l'ange. Voyez, c'est parsemé de bonnes nouvelles partout. Et alors, Jean doit manger ce rouleau, on trouve cela aussi avec Ézéchiel, avec d'autres, dans l'Écriture. C'est évidemment une image, mais il est dit que dans sa bouche, c'est doux comme du miel, et quand ça arrive dans ses entrailles, il y a beaucoup d'amertume. Et il est dit aussi que il doit encore, verset 11, puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Et on le sait, Jean n'a pas eu que des bonnes nouvelles à annoncer par rapport aux peuples, aux nations. Et on peut comprendre que la parole de Dieu, c'est d'abord extrêmement délicieux parce qu'elle est la parole de Dieu, mais qu'il y a aussi dans cette parole, comme nous sommes en train de le voir, des jugements, des choses qui sont moins réjouissantes. Et c'est en ce sens qu'on peut comprendre qu'il reçoit d'abord cette parole, mais il doit prophétiser encore sur des peuples et des nations. Et je vous ai parlé de ces tableaux. Maintenant arrive un tableau un peu particulier, au chapitre 11, où dans la ville sainte, et là nous sommes déjà quelque part proches de la fin, mais pas encore, parce que Jérusalem reste la ville éternelle de Dieu. Dieu a mis son nom à Jérusalem. Et quelles que soient les circonstances, le temple détruit, ça reste la ville de Dieu, qu'on le veuille ou non, indépendamment de toute politique, bien sûr, c'est la ville de Dieu. Et ça veut dire qu'il y aura deux témoins qui retrouveront la vie et qui vont prophétiser. Or, un des deux témoins, au verset 6, a le pouvoir de fermer le ciel et l'autre de changer les eaux en sang. L'interprétation assez classique, c'est de dire en fait qu'il s'agit d'Élie qui est monté au ciel et qui en fait n'est jamais mort. Or, la Bible dit que nous devrons tous mourir. Donc, il y aura une certaine cohérence pour que ça soit Élie qui a le pouvoir de fermer le ciel, comme il l'a fait, pour qu'il ne pleuve pas pendant plusieurs années. Ça peut être Élie. Moïse, on sait que son corps n'a jamais été retrouvé, mais il est quand même mort, la Bible dit. On peut se poser la question d'Enoch qui marcha 300 ans avec Dieu et qui a été enlevé, lui, dans le ciel. Mais encore une fois, on ne va pas remplir des bibliothèques pour résoudre ce problème. Simplement, la terre a été effrayée par ces deux hommes. Ils étaient complètement effrayés par la présence de ces deux prophètes. Et on peut comprendre, parce que ceux qui fuient, même pour aller vivre à 20 millions sous la terre, ils sont quelque part effrayés par la parole de Dieu, effrayés par l'Éternel, effrayés en disant « Et si c'était vrai ?» Et si c'était vrai ? Voyez, il faut vous dire quand même, c'est pour ça qu'il ne faut pas se lasser d'annoncer et de vivre l'Évangile. Parce que, quelque part, jusque dans les derniers instants, des personnes peuvent se tourner vers Dieu. Je me souviens, au Chad, d'une personne que certains ici ont très bien connue, qui n'était pas spécialement tournée du côté de l'Évangile, et quand elle était mourante, son mari a dit à la femme médecin qui était vers elle, est-ce qu'on pourrait voir un pasteur, mais on ne connaît pas les nouveaux pasteurs. Et elle a demandé, elle était en souffle, elle était mourante, si le pasteur Amé était encore là. Alors je suis allé, et j'ai été seul avec elle, et la porte était ouverte, son mari et les enfants étaient dans la cuisine, un peu plus loin, et je lui ai dit, est-ce que vous croyez en Jésus ? Et au souffle, elle m'a dit, c'est trop tard, c'est dramatique. Et je lui ai parlé du brigand sur la croix. Elle m'a dit à nouveau, c'est trop tard. Et là, je suis entré dans une colère contre l'ennemi. J'ai prié une prière de délivrance. Son corps a bougé comme dans des délivrances. Elle est entrée dans une paix qu'elle n'avait plus depuis des semaines. Et le lendemain, elle est morte. Et je suis convaincu qu'elle a trouvé le Seigneur. Ne vous lassez pas de prier. Ne cassez pas les pieds aux gens. Mais ne vous lassez pas de prier. Parce qu'il se passe beaucoup de choses parfois dans ces derniers instants, même si les personnes ne parlent plus. Et puis, voilà qu'ils sont mis à mort. Mais après 3 jours et demi, au verset 11, d'ailleurs, quand ils sont mis à mort, les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Vous voyez, c'est terrible. Alors que nous, on aime la parole de Dieu, on aime que le Seigneur nous parle, on aime prêcher l'Évangile, on aime chanter des cantiques, on aime se rassembler pour louer le Seigneur, écouter sa parole, il y a des personnes qui ne supportent pas. Et là, ils se réjouissent, ils s'envoient des présents, parce que ces deux prophètes sont morts, et au bout de 3 jours et demi, on retrouve bien sûr ce qui s'est passé avec Jésus, dans son tombeau, eh bien, le Seigneur dit, montez ici. Vous vous souvenez, montez ici, la porte ouverte dans le ciel au début du chapitre 4 pour l'apôtre Jean, où le Seigneur lui dit « Prends cette porte, monte un moment dans les cieux. » Et bien voilà. D'ailleurs, on pourra reprendre cela quand il sera question de l'enlèvement de l'Église. Et de nouveau, il y a un grand tremblement de terre. Et puis, on arrive maintenant à la septième trompette, et je peux vous dire qu'elle sonnera. Il est dit dans 1 Corinthiens 15, vous voyez, en fait, tout est déjà décrit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 15, qui est ce chapitre extraordinaire, comme tous les chapitres, mais où Paul, on sait qu'il a écrit cela dans les années 60, et il va dire, mais à propos de la résurrection, il y a plus de 500 personnes qui ont vu Jésus ressuscité. Et il écrit ça dans les années 60. Et donc, c'est lui qui dit, il continue au verset 51, « Voici, je vous dis, un mystère. » Vous voyez, Paul, notre grand Paul, il parle aussi de mystère. Parce qu'il ne comprend pas tout. Quand il a été ravi au troisième ciel, il dit « J'ai entendu des paroles ineffables. » Moi, j'aime beaucoup ça. Il ne dit pas plus, mais il y est allé, vous comprenez ? Et là, il dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » Magnifique. Elle va sonner, cette trompette. Et j'aime beaucoup un chant qu'on a beaucoup chanté en Ouganda dans des grands rassemblements de prières et de réveils. Et ce chant « Are you ready when the trumpet sounds ?»« Es-tu prêt quand la trompette sonnera ?» Mais quel temps glorieux ! Peut-être, nous, on ne sera plus là. Hein. Mais elle sonnera, cette trompette, vous voyez ? Et je me dis, c'est quel avenir glorieux quand même, vous voyez ? Un jour, la trompette sonnera. Et donc, je reviens dans l'Apocalypse qui nous parle de cette trompette qui va retentir. Et là encore, nous sommes dans des tableaux, n'est-ce pas ? Voilà, la septième trompette, la septième ange sonna de la trompette, au verset 15 du chapitre 11. Et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant « Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ, il règnera au siècle des siècles. » Or, on peut se poser la question, à quel moment est-ce que le royaume du monde est revenu à Jésus ? Je traiterai aussi, en fait, quand est-ce que Satan, nous allons trouver cela au chapitre 12, quand est-ce qu'il a été jeté sur la terre ? C'est une question, mais il est quand même dit dans Jean 12, 31, quelque chose de remarquable, c'est déjà l'apôtre Jean, Jean 12, 31, qui nous dit ceci. Il nous dit, verset 31, « Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Et nous pouvons penser qu'à la croix, Satan a dû quitter le monde céleste et a été jeté sur la terre pour faire la guerre, une fois de plus, aux descendants, nous allons le voir au chapitre 12, de la femme qui a enfanté. Et on peut se poser la question, quand il est dit dans une des lettres de l'Apocalypse que le trône de Satan est sur la terre. Et j'aurais beaucoup à dire sur les démons et sur les puissances qui peuvent se manifester, je vous dirai peut-être un mot la semaine prochaine. Mais voilà, c'est une réalité, c'est que le royaume ici, alors, est-ce que quand Jésus dit à Pilate, tu n'auras sur moi aucune autorité si elle ne t'était donnée d'en haut. Et Pilate est bouleversé, parce qu'il comprend tout. Il comprend très bien que son pouvoir, c'est pour un temps, mais que le vrai pouvoir, le vrai royaume qui a été annoncé, c'était le message principal de Jésus, qui a annoncé le royaume. Le royaume s'est approché de vous, Et il vient. C'est le message fondamental de Jésus. Et il établit cela définitivement à la croix. Où Satan, d'ailleurs, il dit à ses disciples, il dit, en fait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand les 70 sont allés évangéliser et qu'ils reviennent, eh bien, ils sont pleins de joie. Et Jésus a un tremblement de bonheur et il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Et c'est notre travail aussi de détruire la puissance du mal. Et si une personne est affectée par des puissances démoniaques, nous avons le devoir de les libérer. C'est Dieu nous a donné autorité. Vous chasserez les démons. Il a dit cela très clairement dans la fin de Marc. Et c'est une réalité qui est là sur la terre, n'est-ce pas? J'ose parler de toi, mon cher Boris. D'ailleurs, plusieurs étaient là dans ce camp, quand Boris, avec ses bottes de cuir, qui était encore dans la zone à Neuchâtel, répond à un appel, monte à ce qu'on appelle à la chambre haute, avec deux ou trois autres qui étaient vêtus de la même manière. Et j'ai su par la suite qu'en prêchant l'évangile, quand j'ai dit, à un moment donné, Jésus dit à Pierre, qui lui dit, non, tu ne vas pas mourir. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. Et ces trois gars ont été pressés sur leur chaise, je n'ai rien vu, mais ils ont été tellement bouleversés qu'ils sont montés les premiers à la chambre haute. Il y a tellement de jeunes qui ont suivi, certains étaient là, vous vous en souvenez, et je suis allé dans le couloir et j'en ai assis deux l'un vis-à-vis de l'autre. Mon Boris et un autre. Et je dis à Boris, tu veux donner ta vie ce soir au Seigneur? Il me dit, mais j'ai peur de retomber avec la zone, je préfère attendre un peu. Je pose la question à l'autre, et tenez-vous bien, il se met à siffler comme un serpent, à me menacer de mort, et c'était tellement visible qu'il y avait des responsables de jeûne qui étaient à genoux, qui suppliaient le Seigneur parce qu'un démon se manifestait. Et il a dit des choses à Boris bouleversantes. Et après, Boris a dit, je donne ma vie ce soir au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelle belle histoire.
C'était un beau moment.
Oui. Oui. Et tu n'as pas perdu de temps. Gloire à Dieu. Vraiment. Mais ça montre que ces puissances existent, mais que le Seigneur nous a donné en son nom le pouvoir d'agir. En son nom, c'est possible. Et croyez-moi, il y a plus de personnes qu'on imagine qui sont prises par des puissances. Et là, au verset 17, il est dit, chapitre 11, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, nous y voilà. » Il n'est plus dit « et qui vient » et nous sommes pourtant pas encore au chapitre 13. Ça veut dire que nous avons cette succession de tableaux où le Seigneur, on progresse, n'est-ce pas? On progresse peu à peu vers le millénium. Il y aura bien sûr le terrible chapitre 13 où nous sommes déjà en partie dedans. Et puis le chapitre 12, voilà de nouveau un tableau, il s'agit de la femme, l'enfant et le dragon. Et il est dit, en fait, le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Et l'enfant a un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. À mon avis, il n'y a pas de doute, il s'agit de Jésus. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 260 jours. Je reviendrai sur cette question des jours, il y en a partout, je l'expliquerai la fois prochaine, ce n'est pas si compliqué que ça, c'est assez bien détaillé. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Il ne trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée, il fut précipité sur la terre. Et puis la femme va au désert, et Satan, le dragon, va faire la guerre à sa descendance. Et donc, il y a trois interprétations de dire, un, c'est Marie et Jésus, et le dragon va faire la guerre aux descendants qui croient en Jésus. L'autre, c'est de dire, c'est Israël. Et puis la troisième, ça serait question de l'Église. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux parce que, en fait, l'enfant, ça serait l'enfantement douloureux de ceux qui se tournent vers le Seigneur et qui attendent. Voilà. Moi, je suis pour cette interprétation au plus simple. Prenons toujours les choses le plus simplement possible, sans nous fatiguer à chercher 250 interprétations. Et puis nous voilà à ce chapitre 13. Il y a la bête qui monte de la terre, de la mer, pardon, qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes, des diadèmes, sur ses têtes, des noms de blasphème. C'est évident qu'il y a là une puissance de l'Antéchrist qui est une puissance politique. Or, il est dit plus loin que le dragon lui donna sa puissance. Donc, le dragon, on peut dire, c'est Satan, et il va, comme on le dit, adober, il va investir l'Antéchrist, qui sera au fond l'Antéchrist politique. L'Antéchrist, et puis ensuite, dès le verset 11, il sera question, cette fois, de l'Antéchrist spirituel. Et il y a des miracles, des signes. Et il est dit qu'il a des paroles arrogantes. Verset 4, et l'humanité se prosterne devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut le combattre? Vous voyez, on trouve toutes ces paroles, qui est semblable à toi, Seigneur Jésus? Et là, l'humanité sera capable. Et là, je dois dire que ça nous fait trembler quand même. Vous savez, les foules qui ont acclamé Jésus 3 jours plus tard, ils ont demandé qu'il soit crucifié. Et les foules aujourd'hui, ça fait souci parfois, n'est-ce pas? Ils crient pour tout et pour rien. On sait aussi toutes les foules qui ont adoré Hitler, qui aujourd'hui encore, il y a une puissance du mal qui peut atteindre les foules. Par contre, le Seigneur est le Seigneur, comme je l'ai dit plusieurs fois, des tribus, des langues, des nations, des peuples. Et nous sommes loin de ce grand mélange antéchristique. Et il a dit, alors là, les choses changent. Il lui faut donner le pouvoir, au verset 7, sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie. Je reparlerai de ce livre de vie la fois suivante, mercredi prochain, parce que je suis persuadé, je le dis à l'avance, que nous sommes tous inscrits dans le livre de vie potentiellement si on veut recevoir le Seigneur. Mais qu'il y en a qui seront effacés du livre de vie. Le projet du Seigneur, c'est de sauver tout le monde. J'en suis convaincu. Mais certains n'en veulent pas et seront finalement effacés du livre de vie. Il y a une théologie qui s'appelle la théologie de l'apocatastase. Ça veut dire que finalement, tout le monde sera sauvé, y compris le diable. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, si le Seigneur, dans son royaume, décidait de rattraper tout le monde, est-ce que vous seriez déçu? J'ai connu un chrétien que certains ici ont très bien connu, qui m'a dit il y a 40 ans, nous comme chrétiens, on en bave sur la terre, les autres en baveront dans l'enfer. Quelle idée du christianisme! Quelle idée du christianisme, chers amis! Mais toute la parole de Dieu nous dit que nous devons annoncer l'évangile à la suite de l'apôtre Pierre après la Pentecôte. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et le drame de ceux qu'on appelle les universalistes, c'est-à-dire qui ont décidé une fois pour toutes que de toute façon tout le monde sera sauvé, n'annonce plus vraiment l'évangile et n'appelle plus à la conversion. Et c'est quand même dans la mesure où nous appelons, pas tous les dimanches matins bien sûr, mais vous vous souvenez à temple ouvert, vous vous souvenez du temple du bas, vous vous souvenez des camps de ski, les grands responsables des camps de ski sont là. C'est vous, grâce à vous, que la paroisse a trouvé tout un renouvellement et des camps, on en a fait. 3 camps de ski par année, 2 camps nautiques, 1 camp de haute montagne et encore un camp de la paroisse de 15 jours. Mais là, les gens trouvaient l'évangile et on les appelait à la conversion et ils se convertissaient. Et il faut continuer. Après, le sort de chaque personne ne nous appartient pas. Voilà. Mais nous, nous sommes appelés à annoncer l'évangile et parfois, il faut avoir le courage, comme dans l'Écriture, d'appeler les personnes. Ça peut être un temps important de répondre à un appel du Seigneur. Il est 9h15, je m'arrête. Attendez. Il y a encore un temps de questions. Alors, je vous écoute.
Vous avez expliqué, cher monsieur,
oui,
que tout être ici peut chasser des démons.
Oui.
Tous. Enfin, c'est ce que j'ai compris.
Oui.
J'ai appris dans nos églises qu'il fallait faire très attention, ou en tout cas être plusieurs lorsqu'il y avait un démon chez une personne. Est-ce que moi tout seul, est-ce que je peux sortir un démon d'une personne?
Je comprends, parce que beaucoup ont peur. Et beaucoup ont peur des représailles. On dit, ouh, il ne faut surtout pas toucher. Oui, certains disent, merci de me rappeler à l'ordre. Certains disent, mais c'est trop dangereux, il ne faut pas toucher, parce qu'ils ont tellement peur des représailles. Mais ce n'est pas ce que l'Évangile nous dit. Alors, s'il vous plaît, ne voyez pas le diable partout. S'il vous plaît, on le dit. Ceux qui le voient partout, quand il est vraiment là, ils ne le voient pas. Donc, faites attention. Mais je peux vous dire qu'il y a certaines manifestations qui sont claires et nettes. Et là, vous avez, au nom de Jésus, la possibilité de dire au nom de Jésus, retire-toi de cette personne. Il est dit dans l'Évangile, et ça concerne les hommes et les femmes. Il est clairement dit, vous chasserez des démons. Et je dis quand même ceci. Jésus, qui tous les soirs, pendant 3 ans pratiquement, passait de village en village, il guérissait les malades et il chassait les démons. Et il n'a pas pu, je dirais même qu'il a eu cette puissance, même de le faire de manière publique. Mais s'il y avait autant de démons au temps de Jésus, est-ce que vous pensez qu'il y en a moins maintenant? Il n'y en a pas moins. Par contre, on a perdu le courage. Mais encore une fois, attention, moi j'ai vu des choses étonnantes, mais j'ai raté aussi des choses. J'ai raté des choses. Je vous donne une situation. Nous étions dans un camp de ski, une fois de plus, et une jeune fille me demande un entretien ce que je ne ferai plus maintenant à cause des temps qui sont les nôtres, je n'irai plus dans un dortoir avec elle parce qu'on ne savait pas où aller. Et là, un démon s'est manifesté. Et moi, j'ai pris peur, non pas à cause de ce démon, mais parce que des fois, il peut y avoir des manifestations qui font que si on me trouvait dans cette situation, on pourrait être accusé de beaucoup de choses. Et donc, j'ai calmé la situation, mais je n'ai jamais revu cette jeune fille. Et je pense à Saint-Blaise aussi. J'étais avec mon épouse. On visitait une dame très connue au village, et son mari aussi, qui cherchait vraiment l'évangile. Et c'est un soir assez tard, et on prie avec mon épouse, et vraiment je peux dire qu'une puissance démoniaque s'est manifestée. Et j'ai eu peur que son mari arrive, parce que parfois, une délivrance, ça dure un moment. Et j'ai eu peur que son mari rentre et appelle la police, comme ça se fait dans certains cas. Et j'ai donné rendez-vous à cette dame à la chambre haute de la cure, elle n'est jamais venue. Et là, j'ai aussi regretté. Donc, je dirais, n'ayez pas peur. Maintenant, voyez pas des démons partout. Quand ils se manifestent, c'est très clair. Je peux vous le dire, c'est très clair. Et à ce moment-là, vous avez l'autorité au nom de Jésus. Et vous êtes protégé par le sang de Jésus. J'en suis convaincu. Encore une dernière question. Oui.
Moi, j'aurais une question. C'était du temps de Ponce Pilate. Quand les Juifs ont prié comme des putains, crucifie-le. Et puis, moi, je ne connais pas la Bible par cœur.
Oui.
Mais je la lis. Où les Juifs ont crié comme des fous, que son sang revienne sur nous et les enfants, nos petits-enfants. Est-ce qu'il y a une relation avec ça? Et puis ce qui s'est passé avec le fameux Adolphe, là, qui a eu un 20 avril, malheureusement pour moi. Mais je ne comprends pas. Est-ce que 6 millions, on peut mettre ça en relation, ou bien je ne sais pas, que son sang, ou bien
c'est sûr que cette parole a été prononcée, que son sang retombe sur nous. Et effectivement, pas mal de théologiens, d'analystes ont pensé que ce qui s'est passé pendant la Shoah a été quelque part un jugement. Mais soyons prudents, parce que, vous voyez, au temps de Pol Pot, de Mao, il y a eu des centaines de millions de personnes massacrées qui n'avaient pas toutes prononcé ces paroles. Mais voilà, en tout cas, c'est une analyse de dire qu'ils ont payé très cher. En même temps, c'est le peuple de Dieu. En même temps, il les a rapatriés, comme je vous l'ai montré. Mais moi, je suis très, très proche de la parole de Dieu. Et je dis, attention, pour certaines personnes qui prononcent certaines paroles, faites quand même attention. Je pense à une personne à qui j'ai dû dire des choses difficiles, qui était dans une colère contre moi effrayante. Et je lui dis, mais tu sais, un jour tu seras à genoux devant Jésus. Et il a hurlé en disant, je préfère crever avant. Je n'ai pas le temps de lui dire, écoute, crever ou pas, un jour tu seras à genoux devant Jésus. Et je le crois profondément. C'est pourquoi il faut vivre et annoncer l'évangile. Et aussi au peuple juif, j'ai eu le privilège de rencontrer en Moldavie, entre autres, beaucoup de ce qu'on appelle les juifs messianiques, en Israël aussi. Ce sont les prémices de ceux qui, comme il est dit dans Zacharie, ils verront celui qu'ils ont percé et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils premier-né. Et j'ai l'espérance aussi que pour ceux qui seront vivants quand la trompette sonnera, beaucoup se tourneront vers le Seigneur en disant « Ah, c'était vrai !» Et se tourneront vers le Seigneur comme Jean-Michel Cravanzola, qui est venu évangélisé à Saint-Blaise et qui avait écrit ce livre, et si c'était vrai. Oui.
J'avais juste envie de revenir sur la libération dont tu as parlé,
oui.
Pour dire qu'ici, depuis des années, on fait des cours,
oui.
Sur la libération.
Absolument.
Où on apprend cette réalité-là.
Voilà.
Et on apprend aussi à être prudent, on apprend, oui. à manier ce qui,
oui.
est très très peu connu dans notre Église.
Tout à fait.
Alors voilà, c'est.
Donc
c'est
tu parles ici, des cours libérés,
n'est-ce pas,
tu parles,
c'est,
voilà.
C'est extraordinaire.
Maintenant, est-ce qu'il y a des rencontres possibles si une personne voulait vous rencontrer?
Ah oui.
Oui.
Alors il y a des gens qui sont formés pour ça.
Oui, ça je sais.
Qui accueillent.
Ça je sais.
Il
faut qu'ils prennent contact avec toi, par exemple.
Bon, ils peuvent avec moi, mais il y a plein d'autres gens ici,
oui.
qui sont avec...
Alors, levez la main.
Oui.
Oh, il y a de quoi libérer tout le canton.